Vous avez parlé d'un argument athée qui était que nous supposons qu'il y a un Dieu qui existe, qui n'a pas été causé. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le monde n'a pas été causé? Et je ne me souviens plus si vous avez répondu à cet argument.
Alors, je pense que j'en ai parlé à deux reprises, peut-être sans répondre. Par exemple, Bertrand Russell citant d'ailleurs John Stuart Mill, disant « Si le monde a été causé par Dieu, qui a causé Dieu ?» Et un croyant disant à Dawkins au terme de sa conférence « Pourquoi ne prenez-vous pas en considération l'hypothèse que Dieu pourrait ne pas avoir besoin de cause ?» Alors effectivement, je n'ai pas répondu à la question. Voilà. Non, je n'ai pas développé, mais quand même un peu. En prenant l'exemple du monde A, B, C, D, E, en disant, si on regarde tout ce qui existe, on arrive finalement à une question, mais on n'a pas une explication complète. Au moins, l'explication de A nous manque. Alors, quelle réponse peut-on donner? Si on considère Dieu aussi comme un être causé, eh bien, il est comme nous. Au bout du compte, il est contingent comme nous, je dirais. Peut-être plus grand, mais quand même comme nous. Et je peux même prendre un autre exemple. J'avais eu un débat avec des Raéliens. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Alors, j'avais rencontré des Raéliens à la gare de Genève, et j'attendais quelqu'un, et le train était en retard. C'est quelqu'un assez rare en Suisse, mais je ne sais pas d'où venait le train. Pour être tout à fait franc, il venait de Fribourg. C'est de je me suis rappelé en cours de route. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant discuter avec ces Raéliens. Après coup, Saint-Dominique n'a-t-il pas passé toute une nuit sans dormir pour discuter avec, un Qatar, je suppose. Et je devrais peut-être faire la même chose. D'autant que de toute façon, j'étais là à attendre. Et ce que disent les Raéliens, en gros, c'est nous avons plus de connaissances scientifiques, etc., mais nous sommes en contact avec des extraterrestres qui sont plus grands, plus beaux, plus forts, plus intelligents, et qui nous ont légué quelque chose. Et je me souviens que j'ai essayé de leur dire, je l'ai même dit, mais je n'ai pas réussi à me faire comprendre, écoutez, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, des êtres comme nous, qui sont des espèces d'animaux rationnels, qui pourraient vivre même 10 000 ans, si vous voulez, ou 500, ou 1 million d'années, et qui seraient beaucoup plus intelligents que nous, avec beaucoup plus de connaissances, on pourrait trouver que c'est admirable. Mais au bout du compte, ils finissent par mourir. Et ce n'est pas eux qui expliquent pourquoi nous existons. Donc, c'est une réponse qui, dans le fond, ne change rien à la question. Et c'est ça, si Dieu est simplement un animal comme nous, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus tout, en bien, s'entend, mais qu'il a besoin d'être causé par quelqu'un d'autre, la question par rapport à l'existence du monde reste absolument entière. On peut dire, ou alors, il ne dépend pas, lui, d'un autre. Et on peut dire, c'est simplement lui qui est à l'origine. Est-ce que j'ai mieux expliqué la question?
En fait, on peut dire que nous, les croyants, on aurait un problème d'avoir un monde qui est rationnellement organisé et qui n'a pas de cause. Donc on cherche la cause plus haut. Et les athées, eux, ils cherchent la cause plus haut de Dieu, en fait. Et c'est un argument contre l'existence de Dieu.
Pas nécessairement. Je ne sais pas s'ils se posent la question dans ces termes-là, pour être franc. Je dirais qu'ils se posent la question à l'intérieur du monde, plutôt. Tout en faisant de ce que nous disons à propos de Dieu comme un phénomène interne au monde, mais on peut discuter sur les termes. En fait, nous pensons qu'à l'intérieur du monde, on ne trouve pas une explication suffisante, mais que le monde suggère bien la question. On pourrait dire ça comme ça.
Bonjour, Monseigneur. Est-ce qu'il est réellement possible d'être athée intellectuellement, mais aussi après, est-ce qu'il est possible d'être athée existentiellement, vraiment? Ou est-ce que, d'une certaine manière, on le cherchera toujours?
On pourrait dire oui et on pourrait dire non. Quand on dit que saint Thomas se pose la question, l'existence de Dieu est-elle évidente? Puisque certains disent que l'existence de Dieu est évidente, Il répond, certains peuvent dire qu'il n'y a pas de Dieu, donc l'existence de Dieu n'est pas évidente. C'est une réponse simple. Et ajoutant d'ailleurs, ceux qui croient que Dieu est évident le disent peut-être parce qu'ils ont été durant toute leur vie habitués à l'entendre et à le penser. C'est quand même étonnamment contemporain comme argument pour un homme du XIIIe siècle. D'un autre côté, comme nous sommes faits pour Dieu, et que aussi longtemps que notre cœur ne repose pas en lui, il est sans repos, on peut dire qu'il y a quelque chose qui manque à l'athée. Donc, que, d'une manière ou d'une autre, mais consciemment ou non, il va bien essayer de trouver quelque chose à quoi s'accrocher, un peu comme un absolu. Seulement, ça peut être une idole, je veux dire, il peut faire de son absolu une réalité de ce monde. Et essayer de ne pas trop y réfléchir, parce qu'il court tout le temps et ne s'arrête jamais pour y penser trop. Et ça arrive. Et on voit tout de même des gens, je vous en ai donné là un exemple, qui semblent ne pas se préoccuper de la question. Je me demande combien de temps ça peut durer, peut-être que ça change. Je me souviens d'avoir vu un malade, pas très jeune, dans un hôpital, qui venait d'ailleurs d'être opéré à cœur ouvert, ce qui a quand même de quoi faire réfléchir un peu, et qui m'a dit « Ah, c'est gentil de me rendre visite, mais vous savez, je n'ai pas besoin de vous, évidemment, parce que, vous comprenez, moi je connais des gens d'un peu toutes les religions, alors... » J'y crois plus. Mais de toute façon, vous êtes certainement quelqu'un de très aimable, mais je dois vous dire, moi j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai beaucoup d'argent, j'ai une femme beaucoup plus jeune que moi, je suis heureux. Alors, bon, il avait l'air sincère. Je me dis, mais est-ce que ça peut être vrai? Et je dirais que parfois, quand les gens donnent l'impression qu'ils ne s'intéressent pas, il y a de temps en temps une petite fenêtre qui s'ouvre et qui fait qu'on voit à travers une certaine insatisfaction. Mais, donc, bon, je comprends votre question.
Je connais très mal ce qui est en dehors de notre tradition, mais je suis parfois interpellé par ce que je crois comprendre des bouddhistes, qui, dans ce que le peu que je comprends, semble dire que tout ne serait qu'illusion. Et donc que les questions qu'on est en train de se poser là maintenant sur la matière, sur le monde, sur l'origine des choses, ce sont de fausses questions, des questions qui nous dérangent pour rien finalement, parce qu'à un moment donné, on sera libéré de cette apparence des choses qui nous fait souffrir et on trouvera un bonheur dans une espèce de d'autres choses. Donc finalement, c'est comme si eux n'avaient pas cette question de Dieu.
Ça dépend, mais je ne les connais pas très bien non plus. Je dirais, c'est une autre manière de poser ces questions aussi, dans le fond. On se dit, on ne trouve pas son bonheur complètement dans ce monde tel qu'il est, mais on cherche quand même un bonheur, et alors on le présente de manière fort différente. Mais il y a quelque chose de commun dans cette approche et quelque chose de fondamentalement différent. Mais au moins, ils seraient bien les derniers à dire « Contentons-nous du monde tel qu'il est ». Là, il y a quelque chose de commun. Mais je me souviens aussi de ce que me disait un confrère dominicain japonais il y a des années. Il me disait « Au Japon, il nous est très difficile de parler de notre foi parce qu'on est confronté à plusieurs phénomènes. Il y a une grande partie de la population qui ne s'intéresse qu'assez relativement aux questions religieuses et qui est volontiers syncrétiste. En gros, les églises, c'est bien pour se marier, et puis donc tant mieux, et puis on trouve d'autres choses dans les autres religions. Par exemple, il y a un certain nombre de cas intermédiaires, et puis il y a les bouddhistes profonds qui nous traitent avec une grande bienveillance et un grand sourire, parce que ce serait une erreur de leur part, me disait ce dominicain japonais, lui-même ancien bouddhiste, d'entrer en conflit avec nous. C'est peut-être notre problème, mais eux ne vont pas se donner cette peine, parce que ce serait céder à l'illusion. Et là, on se dit effectivement, il y a une approche un peu différente. D'un autre côté, j'ai vu une Suissesse d'origine italienne qui m'a dit pendant une vingtaine d'années, j'ai rejeté, vivant actuellement dans le canton de Vaud, pendant une vingtaine d'années, au terme de mon adolescence, j'ai violemment rejeté la religion que j'avais reçue. Je suis devenu bouddhiste et un maître tibétain m'a dit Ah, cette année, je suis allé tous les jours à la messe parce que j'essaie de comprendre et vous avez là une richesse que vous ne soupçonnez pas. Elle dit, et je suis retourné à la messe. Elle est de nouveau croyante. Donc, bon, c'est pas très facile pour nous de comprendre quelquefois ces gens-là, mais quelquefois on peut être reconnaissant. Je me souviens de ce que me disait un spécialiste du bouddhisme d'ailleurs, un dominicain français qui enseigne ces matières, et qui m'a dit, une chose est sûre, c'est que plus on essaye de se comprendre les uns les autres, plus on remarque qu'on ne se comprend pas. Voilà qu'il y a de quoi nous remplir d'optimisme.
Si Dieu est amour, est-ce qu'on peut mettre en cause l'existence de Dieu sans mettre en cause l'existence de l'amour ?
Oui. Je dirais, regardons les faits. Il y a des athées qui, quand même, aiment des personnes. Je pense à un bel exemple que je cite parce qu'il me plaît pour une autre raison. Une discussion dans un train entre Rome et Milan avec un juif italien athée qui, à un moment donné, m'a dit « Pourquoi est-ce que les prêtres catholiques ne se marient pas ?» Bon, je passe sur quelques détails, comme il avait vécu en Israël, je lui ai parlé un peu des rites orientaux parce que je pensais qu'il le connaissait. Mais je dis ben, « C'est un fait que la discipline de l'Église latine, c'est que les prêtres ne se marient pas. » Et en gros, et il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Qu'est-ce que vous pensez ?» Et il m'a dit « Oh, vous savez, moi, je suis athée, mais j'imagine un peu ce que peut signifier le terme Dieu. Pour un croyant, je vois un peu le sens du terme. Et j'aime ma femme. » Oui, un athée qui aime. Et ce n'est pas le seul. « Et j'aime ma femme. Maintenant, j'imagine que si je mets l'idée de Dieu à la place de ma femme, cela doit largement suffire pour remplir une existence. » Ce n'est pas bête. C'est un athée qui avait pas mal compris certaines choses. Et cela ne signifie d'ailleurs pas que l'idée de Dieu ne remplit pas aussi l'existence des personnes mariées, entre parenthèses.
Nous avons été très impressionnés par Assise, la première fois du temps de Jean-Paul II, et ensuite, maintenant récemment, où pour la première fois, on a invité un représentant athée à converser à Assise. Est-ce que vous pensez que ces réunions font aboutissent à une meilleure compréhension, à une recherche? Et comment expliquer l'accord de l'athée de venir en présence de toutes ces religions?
L'athéisme est au moins habituellement une attitude religieuse, ou du moins peut être une attitude religieuse. C'est un intérêt pour la question. Je dirais qu'avec un athée convaincu, on peut discuter de la question de Dieu, alors qu'avec un indifférent, c'est beaucoup plus difficile. De ce point de vue, il peut aussi partager même un souci des personnes religieuses par rapport à l'indifférence à certaines questions. Au moins, c'est une possibilité chez certains athées. De ce point de vue, je ne suis pas du tout surpris qu'un athée, outre même le fait qu'il est peut-être content d'avoir été invité, soit allé là. Ensuite, l'impact de ces rencontres, ben, l'histoire nous le dira. Il est certainement mieux de se connaître que de ne pas se connaître. Et on en a fait l'expérience dans d'autres domaines. Si on lit certains textes, je dirais par exemple, écrits pendant la Première Guerre mondiale, je pense à quelques auteurs précis, ou par exemple, mais ça vaut dans les deux sens, mais je connais mieux les textes en français que les textes en allemand, un auteur français explique qu'ils sont des Allemands et les décrivant comme des espèces de monstres, cela n'aide pas la paix. Et la caricature de l'autre n'aide jamais beaucoup. Quand on se connaît personnellement, on finit par remarquer que l'autre, dans le fond, n'est pas si horrible. Et de ce point de vue, que les personnalités religieuses puissent apprendre à se connaître est probablement une contribution à la paix. Et c'est déjà beaucoup. Je crois que c'est un des buts de ces rencontres. Et c'est certainement un des buts du dialogue interreligieux aussi.
Je voudrais revenir à l'aspect scientifique. Ça m'a frappé de voir À quel point donc des scientifiques qui se sont penchés sur le problème de Dieu ont trouvé à travers la science l'image de Dieu, mais j'aimerais venir à la question du Big Bang, parce que moi ça m'a toujours interpellé en fait, toute la matière que nous connaissons, tout ce que les matérialistes disent, ce dont les matérialistes disent que c'est la seule réalité, provient d'un instant zéro, d'un Big Bang qui a donné naissance à tout ce qui existe, en dehors évidemment de son créateur, puisque moi j'y crois. Et dans les débats, il semble, avec les derniers ouvrages qui sortent, me semble-t-il, la seule question c'est de savoir est-ce que cet univers où nous sommes, est-ce qu'il a été créé par un dieu, ou bien est-ce qu'il provient d'un autre univers? Donc semble-t-il, beaucoup d'athées, beaucoup de scientifiques qui essayent de défendre l'idée qu'il n'y a pas de dieu, disent en fait il y a des infinités d'univers, et le nôtre en fait c'est le seul peut-être qui arrive à tenir, et les autres pas. Alors est-ce que l'Église s'est penchée sur cette question? Comment? Parce que je crois que le débat vraiment est beaucoup plus évolué, je pense que le débat est beaucoup plus évolué qu'à l'époque de Bouddha, de Leibniz ou même d'Einstein.
Il y a plusieurs raisons pour affirmer une multitude d'univers ou un très grand nombre d'univers. Certains utilisent cet argument pour parler de la question de Dieu en disant, puisque dans le monde tel que nous connaissons, des êtres aussi perfectionnés que nous pourrait difficilement exister par hasard, il faut que l'univers soit suffisamment grand pour que ce cas extrêmement peu probable puisse exister. Or, nous existons, donc l'univers est plus grand que ce que nous pensons. Mais, en fait, c'est l'expression d'un désir. Ensuite, le Big Bang est actuellement considéré comme l'hypothèse la plus probable par la majorité des scientifiques qui traitent de ces questions, mais ce n'est quand même pas nécessairement une preuve absolue. C'est l'hypothèse la plus probable, mais les hypothèses les plus probables ont évolué assez vite au cours de l'histoire. Qu'est-ce qui en sera à l'avenir? Je n'en sais rien. On a un problème qui est que nos capacités de connaissance du passé s'arrêtent pratiquement à ce moment-là. Et que donc, pour l'instant, on ne peut absolument pas dire ce qu'il y avait avant ce moment. Alors, le croyant serait tout content de dire c'est Dieu, mais en fait, il n'est pas du tout sûr qu'on arrive à remonter au-delà. Donc, on ne peut pas exclure cette éventualité. Dieu pourrait même agir comme ça, d'ailleurs, en plus. Que cet univers-là soit le produit d'une évolution à partir d'un univers antérieur. En fait, je crois que scientifiquement, on n'a pas le moyen pour l'instant de répondre à cette question. Et je ne vois pas comment on pourrait radicalement trancher cette question précise. En tout cas, moi, je ne vois pas. Quant à l'Église, s'est-elle penchée là-dessus? Certains, oui. Je ne crois pas qu'il y ait eu de déclaration particulièrement officielle à ce propos, et ce ne serait pas le lieu, parce que ce n'est pas à proprement parler une question théologique.